Il est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Et je ne sais pas comment dire, mais c'est tellement précieux pour moi, et je pense pour vous aussi, de venir dans la présence de Dieu pour lui rendre tout l'honneur, toute la gloire qui lui est due. Quand je réalise déjà tout ce qu'il fait pour moi alors que je suis sur cette terre, c'est quasiment rien, notre vie sur la terre par rapport à notre vie dans l'éternité. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Parce que Dieu désire vraiment que... Déjà, il veut notre bonheur. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas pour nous des projets de malheur, mais il a pour nous des projets de bonheur. Et c'est une réalité, malgré ce qu'on peut vivre les uns et les autres, parce que dans les projets de bonheur que Dieu a pour nous, eh bien, quelquefois, ça passe par des moments difficiles dans notre vie. Alors, la semaine dernière, j'avais partagé plusieurs versets dans les Colossiens, et je vais particulièrement insister sur Colossiens 1, mais on avait pris quelques versets dans Colossiens 2 et dans Colossiens 3. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait encore approfondir, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on relève dans ce que Dieu, alors qu'il a inspiré l'apôtre Paul dans cette lettre aux Colossiens, Paul va donner un certain nombre d'éléments très pratiques. Ce matin, je n'aurai pas l'occasion encore une fois de tout développer sur ce qu'on va commencer à regarder de nouveau. Mais j'aimerais déjà mettre une première réflexion. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, le titre qui est dans ma Bible, d'ailleurs, je crois, dans la Bible Parole Vivante, c'est justement « Christ et l'Église ». Donc, si on fait partie de l'Église, ce qui est écrit là, eh bien, ça nous concerne les uns et les autres. Dans cette lettre aux Colossiens, donc dans le premier chapitre, il me semble, c'est bien dans le premier chapitre, au verset 18, Paul va dire « L'Église, c'est son corps, le corps de Christ, lui seul en est la tête, il est origine des principes, il est le premier-né ressuscité des morts, et c'est en lui que commence une autre humanité. » Et là, il y a quelque chose qui est très fort quand même. Justement, je voulais vous partager ce texte de 2 Corinthiens. Alors là, c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Mais dans cette version Parole Vivante, il va dire ceci. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, si quelqu'un vit une intimité avec le Seigneur, avec Jésus, si on est véritablement enfant de Dieu, ou comment je vais dire ça, si on est véritablement chrétien, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement chrétien de nom, mais des chrétiens qui nous appuyons sur le Seigneur, qui voulons devenir comme on l'a déjà évoqué il y a quelques mois de ça, où je me souviens, j'avais fait une prédication et je vous avais dit qu'on était appelé à être des petits Christ sur terre. Enfin, petit Christ, c'est une façon de dire la chose, c'est-à-dire de refléter Jésus-Christ, quoi, dans notre vie de tous les jours. Ce texte de 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si celui qui est en communion avec Christ, eh bien, il devient un homme nouveau. Il est donc recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, et la nouvelle création a déjà commencé. Tout est devenu nouveau. Voilà ce que déclare Paul. Justement, je remets ça en relation avec ce qu'il disait donc aux Colossiens, quand il nous dit que, eh bien, c'est en lui que commence une autre humanité. Ça me semble tellement important de le réaliser. Frères et sœurs, qu'est-ce que Paul veut dire là et quelle est cette réalité-là? Vous le savez bien, et puis moi je le sais bien aussi parce que je suis un homme, ou vous êtes une femme, entre parenthèses d'ailleurs, quand il est parlé d'homme, un homme nouveau, c'est un homme ou une femme, c'est le genre humain. Et donc, je sais tellement en moi, parce que ben, je ne suis pas autrement qu'un autre, moi aussi, comme vous, eh bien, j'ai cette nature adamique qui m'embête bien dans ma vie d'enfant de Dieu, mais qui est là et que je dois faire mourir jour après jour. Et puis vous aussi. Et comme quand on en avait parlé à l'époque de cette nature adamique, je réalise à quel point je dois savoir justement que je dois la faire mourir. Parce que je suis, Dieu fait de moi quelqu'un de nouveau. Il est dit dans ce texte que ce qui était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, je deviens un homme nouveau. Je deviens un homme nouveau ou une femme nouvelle. Est-ce que, j'aimerais vous dire, vous poser une question un peu d'une façon différente afin que ça puisse bien nous parler peut-être, c'est que, est-ce que vraiment mon désir est d'être quelqu'un de nouveau? C'est-à-dire, est-ce que vraiment mon désir est d'être quelqu'un qui ne vit plus avec les pulsions de ma nature adamique, mais qui cherche à vivre ce que Jésus est, ce que Jésus me dit, ce qu'il me montre, comment je dois être? Parce que si je ne suis pas intéressé par devenir un homme nouveau, par être recréé, si je ne suis pas intéressé par cette notion de ce qui est était autrefois, eh bien, doit disparaître, alors je me laisse manipuler par ma nature adamique. Frères et sœurs, les enfants de Dieu, les chrétiens, les vrais chrétiens, pas les chrétiens de nom, mais ceux qui vraiment veulent appartenir à Christ, eh bien, ce sont ceux qui choisissent cette route-là, c'est-à-dire la route d'être un homme nouveau, une femme nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va nous dire, il y a des choses que Dieu va nous enseigner, il y a des principes que Dieu va recréer ou créer en nous, eh bien, qui ne seront pas en harmonie avec notre nature adamique. Pour le dire autrement, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va me demander de faire ou que Dieu va me façonner pour lui ressembler à lui. Entre parenthèses d'ailleurs, tout ce que Dieu va faire avec nous dans son façonnement, eh bien, ça sera toujours pour finalement pour notre bien, même si notre nature va peut-être quelquefois penser le contraire. Alors, ceci dit, ça me semble important. C'est pour ça que j'ai commencé par ce texte-là, à vous rappeler qu'on est des enfants de Dieu qui sommes dans une dimension où ce qui est de notre nature adamique, eh bien, on doit le faire disparaître et jour après jour, enfin, on a ce combat continuel qui est là, parce que Paul va dire dans un autre texte, hein, et vous le savez bien, je le cite de temps en temps, qu'on doit faire mourir notre chair. Notre chair, ben, c'est cette nature adamique, pour devenir cet homme nouveau. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, je vais donc revenir maintenant à cette lettre aux Colossiens. Et particulièrement, on va donc regarder de nouveau ce texte, mais on va aller tout de suite dans le chapitre 3. Et Sébastien, si tu peux mettre la page 2. Alors, justement, j'espère que vous arrivez à lire. Mais alors, vous inquiétez pas par tout ce qui est petit là. C'est parce que c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter ce matin, mais simplement j'ai remis tout le texte d'ailleurs que je vous avais enfin que j'avais mis sur le site, donc que vous avez normalement reçu. D'ailleurs, de nouveau les textes, je les remettrai sur le site. Ce qu'on voit ce matin, j'aurais aimé d'ailleurs, j'avais pensé, mais c'est trop compliqué dans la période où on vit, de faire une je sais plus le nom m'échappe. Ouais, voilà. J'aurais aimé, mais alors on va peut-être le faire différemment. J'essaierai de créer un espèce de sondage anonyme parce que ce serait intéressant que justement chacun d'entre nous, on réfléchisse et puis on donne nos réflexions sur ce texte qu'on va commencer à voir ce matin. Donc je vais préparer quelque chose et je vous l'enverrai. Donc je reprends ce Colossiens 3 verset 8 à 17, mais donc le verset 11, hein, dans cette nouvelle humanité, de nouveau, hein, on l'avait vu. Il l'avait déjà abordé dans Colossiens 1, il raborde de nouveau dans Colossiens 3. hein, dans cette nouvelle humanité, frères et sœurs. On est dans une nouvelle humanité. Ici, dans ma nouvelle humanité, eh bien, il n'y a plus que Christ. C'est lui qui est mon Seigneur, c'est lui qui est mon maître, c'est lui qui inspire ce que je suis et c'est lui qui est mon modèle parfait. Je regarde le modèle qu'il est et puis je veux vivre ce modèle-là. Et puis, ce Christ-là, eh bien, il est tout et il est en tous, il est en tous ses enfants. Et si je ne m'approprie pas de ce modèle qui est Jésus-Christ, eh bien, quelque part, c'est que je dis à Jésus-Christ, ben, je ne veux pas que tu sois mon Seigneur, quoi. Hein, je ne veux pas entrer dans cette nouvelle humanité. Si j'entre dans cette nouvelle humanité, eh bien, c'est que je rentre dans cette dimension où Christ habite en moi. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Donc, il y a plein d'éléments au verset 12. Hein, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion, revêtez-vous de bienveillance, ayez bon caractère, faites preuve de patience. Mais le verset qui va m'intéresser, sur lequel on va commencer à regarder les choses ce matin, hein, c'est le verset 13. Je vous avais dit, et je vous le redis de nouveau, je l'ai retiré en introduction, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de parler à l'Église. Il est en train de nous parler parce que nous sommes l'Église. Et donc, je fais cette remarque pour la raison suivante, c'est que là, c'est spécifique. Ce verset est spécifique pour les frères et sœurs de l'Église. C'est-à-dire que, on pourrait, si je le dis autrement, il ne s'adresse pas à tout le monde, on va dire. Il s'adresse à l'Église. Et qu'est-ce que dit ce verset? Vous savez, Dieu nous connaît bien. Il sait exactement, il nous connaît, quoi. Il sait qui je suis. Alors, ce verset nous dit ceci, et on va s'arrêter là-dessus. Si vous trouvez à critiquer en votre frère, alors portez, supportez et supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Amen. Wow, ça n'arrive jamais, hein. Ça n'arrive jamais à ce qu'on trouve à critiquer l'autre. Alors je vais faire quand même une première remarque. Quand on lit ce texte, si vous trouvez à critiquer votre frère, ce texte ne dit pas que, enfin, encore une fois, je répète d'ailleurs, quand il est parlé de votre frère, c'est votre frère ou votre sœur, hein. C'est les sœurs ne sont pas exclues, hein. Alors, si vous trouvez à critiquer votre frère, ma première réflexion, elle est là, c'est-à-dire que si j'ai à critiquer quelqu'un, alors il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est que je fais une critique qui n'est pas justifiée. Mais il y a aussi, bien sûr, cette possibilité où ma critique est justifiée. Hein, c'est juste. C'est-à-dire que mon frère ou ma sœur a fait quelque chose, par exemple, qui m'a blessé ou qui n'était pas juste ou qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Ce texte ne me dit pas que celui qui était critiquable a fait quelque chose de juste. On est bien d'accord. Et il faut bien comprendre ça. Donc, ça veut dire que si je trouve quelque chose de mal, je vais le dire comme ça, en mon frère ou à ma sœur, eh bien, parce que je vous répète encore une fois, parce que je pense que ça a son importance quand même, c'est qu'on est dans l'Église. Et on verra un peu plus loin avec d'autres textes, mais Paul va dire ceci, mais je pense que quand je dis Paul va dire ceci, moi je crois que je vais le dire même autrement, je veux dire Dieu au travers de Paul nous dit cela, nous donne cette instruction-là. Si mon frère ou ma sœur est critiquable, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois porter, je dois supporter malgré tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprendrait pas dans le fait de porter ou de supporter, hein, c'est-à-dire que, et c'est là où je reviens sur cette notion de tout à l'heure, cette notion où on entre dans une nouvelle dimension, on entre dans une nouvelle nature. Parce que vous savez quoi, ce texte-là, moi, il est imbuvable pour ma nature adamique. Je veux dire, si je raisonne dans mon raisonnement humain, je dirais presque même c'est inacceptable, quoi. Presque. Mais Dieu nous dit qu'on doit, et puis on va aller voir plus loin jusqu'où va le Seigneur quand même, hein, mais malgré que mon frère ou ma sœur soit critiquable, j'ai une instruction ici pratique dans le cadre de l'Église qui m'est donnée, c'est que ce frère-là ou cette sœur-là, eh bien, non seulement je ne dois pas la rejeter, ou je ne dois pas le rejeter, mais je dois le porter. C'est-à-dire que je dois lui amener quelque chose. Parce que quand je porte, il y a deux verbes ici, il y a porter et supporter. Porter, ça veut dire que j'ai une action. On verra tout à l'heure, hein, mais c'est quand même intéressant de savoir que si mon frère est critiquable, ben j'ai une action à faire vis-à-vis de lui. Ou si ma sœur est critiquable, j'ai une action à faire vis-à-vis de lui. Je dois la porter. C'est-à-dire, déjà d'une, c'est pas écrit, si quelqu'un fait quelque chose de mal, eh bien, je dois le détruire, quoi. Mais peut-être que ça, c'est notre nature adamique quand même, hein. Mais quand je vous dis ça, je sais de quoi je parle, parce que moi, je suis un homme comme vous, quoi. Je veux dire, peut-être que mon premier réflexe, eh bien, ce serait plus de peut-être d'écraser que de porter. Enfin, je sais pas. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais l'apôtre Paul, plutôt inspiré par le Seigneur, nous dit qu'on doit porter celui qui est critiquable. On doit faire quelque chose pour lui. Et puis, on doit le supporter. Porter et supporter. Ça veut dire que, non seulement je le porte, non seulement j'ai une action à faire vis-à-vis de lui, mais aussi moi, je dois alors prendre aussi sur moi, quoi. Je dois le supporter. Ça va jusque-là? Vous êtes d'accord? Enfin, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas moi qui dis, hein. Je comprends à quel point c'est pas facile finalement. Hein? Si vous trouvez à critiquer votre frère, portez, supportez-vous. Parce que portez et supportez-vous les uns et les autres. Et puis, si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, bon, c'est un peu la même notion. Hein? Et là, c'est pareil. Mais frères et sœurs, si, même sans regarder la famille de Dieu, si on parle dans notre famille, par exemple, notre famille terrestre, eh bien, est-ce que jamais on a des choses à se reprocher les uns et les autres? Ça arrive, hein? C'est la vie. Enfin, c'est la vie parce que, d'une part, quelquefois, on n'arrive pas à se comprendre, parce que, même des fois, sans le vouloir, on va blesser l'un, on va blesser l'autre. Quelquefois, en le voulant, alors là, c'est bien grave, mais n'empêche que. Alors, c'est des choses qui arrivent. Et puis, bien sûr, vous savez, être chrétien, être enfant de Dieu, ça veut dire qu'on a un père qui est notre Dieu, et si on a un père, on est ses enfants, si on est ses enfants, on est une famille, et d'ailleurs on dit qu'on est la famille de Dieu, donc on est une famille, et dans la famille de Dieu où on est, eh bien, il arrive des moments où on a à se reprocher des choses les uns les autres. Si ça n'arrivait pas, Dieu n'aurait pas inspiré Paul pour écrire ce texte, hein. Donc si, encore une fois, Dieu nous connaît bien, s'il nous dit qu'on doit être prudent, qu'on doit faire attention, qu'on doit prendre en compte cet élément-là, eh bien, c'est que ça a une nécessité. Donc, si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, et je sais évidemment que ça nous arrive aux uns et aux autres, je ne suis pas parfait, et certainement, il m'est arrivé de vous blesser, non pas que je veuille vous blesser. Hein. Je ne pense pas que j'ai cette nature-là maintenant. Mais oui, bah, certainement qu'il m'est arrivé de vous blesser, ou certainement que vous avez certainement à un moment donné des choses à me reprocher, parce que ça m'arrive de ne pas faire les choses non plus de façon parfaite. Et puis ça vous arrive aussi, enfin, ça nous arrive à tous. Alors, le Seigneur va dire ici, et je vous rappelle, hein, encore une fois, parce que de nouveau, ça me semble important de bien qu'on saisisse ça. C'est-à-dire, Dieu, Paul, inspiré par le Seigneur, est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler de nous ici, parce que nous sommes l'Église. Il est en train de parler de notre famille. Eh bien, oui, ça va arriver qu'on a des choses à se reprocher. Eh bien, quand ça arrive, qu'est-ce que je fais? Ce que Dieu nous dit, eh bien, c'est qu'on doit toujours être prêt à nous pardonner. Soyez toujours prêts à pardonner vos torts. Comment? De la même façon que Christ nous pardonne. Et là, ça met la barre très haut. Hein. Elle n'est pas à ras de terre, la barre, là. Hein. Alors, frères et sœurs, on va aller un peu plus loin, je vais prendre d'autres textes, mais de nouveau, j'aimerais qu'on se pose tous la question, est-ce que nous sommes prêts à vivre ce verset? Je ne vous demande pas de me répondre. Mais frères et sœurs, ces situations qui sont décrites là, c'est des choses très pratiques. C'est des choses que forcément nous vivons. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors, peut-être que vous direz, ah oui, mais ça, c'était l'apôtre Paul. Hein. Paul n'était pas Dieu. Bon, ok. Alors, on va prendre un autre verset. On va aller dans Luc, au chapitre 17, versets 3 à 4. Sébastien, si tu peux mettre la page 3. Ah ben, tu l'as déjà mise, c'est parfait. Alors là, qui est en train de parler ici? Alors si vous ne le savez pas, je vais vous le dire tout de suite, c'est Jésus. Vous savez qui est Jésus? Bien sûr. Hein, enfin, Jésus, il est quand même au-dessus de Paul, quoi. Jésus, c'est Dieu. Alors lui, il sait aussi de quoi il parle, même plus que l'apôtre Paul, on va dire. Voilà ce que dit Jésus. Il commence par nous donner encore quelque chose de très pratique. Il nous dit, veillez donc sur vous-même et sur votre manière de vivre. Rappelez-vous, on est dans une nouvelle humanité, on est dans cette création nouvelle. Et dans la création nouvelle, je ne vis plus avec mon ancienne nature. Cette ancienne nature, je dois la faire mourir. Mes réflexes naturels qui ne sont pas en harmonie avec la pensée de Dieu, eh bien, je dois les écarter. Alors, eh bien, veillez donc sur vous-même et sur votre manière de vivre. Je dois faire attention. Je dois veiller à la façon dont j'agis et à la façon dont je réagis. Et Jésus va donc dire, si ton frère te fait du mal, chapitre 3, non, pardon, j'étais parti au texte suivant, mais non. Veillez donc sur vous-même et sur votre manière de vivre. Et si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, fais-lui des reproches en conséquence. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. J'aimerais mettre ce texte en parallèle à ce qu'on a vu précédemment. Je reviens. Si ton frère, ou ta sœur, encore une fois, hein, bien sûr, s'est rendu coupable à ton égard, de nouveau, on se rend compte d'une chose, hein, j'essaie de réfléchir, c'est que, donc, on est dans le cadre de l'Église, enfin, si ton frère, donc on est dans le cadre de la famille, et dans le cadre de la famille, eh bien, ça arrive que mon frère ou ma sœur, encore une fois, me fasse du mal, donc est coupable vis-à-vis de moi. C'est des choses qui arrivent. Et Jésus, ici, dans ce texte de nouveau, j'attire votre attention sur le fait, Jésus ne dit pas que celui qui a été coupable n'est pas coupable, quoi. Ben, le coupable, il est vraiment coupable. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait quelque chose de mal. Il a vraiment fait quelque chose qui n'était pas juste. Eh bien, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a quelque chose de très fort. Jésus va dire, mais alors, va lui faire des reproches en conséquence. Va lui dire ce qu'il t'a fait. Va lui dire en quoi il a fait quelque chose qui t'a fait mal. Et puis, Jésus va dire, et s'il change d'attitude, parce que justement, tu es allé le voir et tu lui as expliqué, alors s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et il va continuer au verset 4. Écoutez bien, parce que, enfin, vous lisez, hein. Mais combien de fois mon frère va devoir revenir vers moi? Parce qu'il est coupable à mon égard, et puis peut-être que nous, dans notre humanité, je reviens sur le fait qu'on est dans une autre humanité, parce que dans notre humanité charnelle, adamique, une fois, deux fois, trois fois, ça suffit, quoi. C'est naturel, hein. Alors Jésus va dire ici, eh bien, même s'il vient te trouver sept fois de suite, pas dans un an, pas dans un mois, pas dans une semaine, mais sept fois de suite dans la même journée, et qu'il te dit, ben, je me repens de ce que je t'ai fait, alors pardonne-lui. Voilà, je vous dis, Jésus met la barre très très haut. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Jésus? Il est en train de montrer une dimension d'amour incroyable. Il est en train d'expliquer comment dois-je agir, parce que peut-être quand on regarde ce texte, on dit, mais moi je vais être perdant dans l'histoire. Lui, il me fait mal, et puis moi, ben, je n'ai qu'à pardonner, quoi. C'est trop facile ça. Mais en fait, le fond de cette réalité, elle est beaucoup plus profonde. Parce que ce qui se passe ici, mais là on retrouve, et quand je vous disais tout à l'heure que nous, on doit chercher dans notre nouvelle humanité à tellement ressembler à Jésus, tellement avoir les sentiments, ce qui était dans le cœur de Dieu, quoi, dans le cœur de Jésus. On doit être des petits Jésus, entre guillemets. Enfin, quand je dis petit Jésus, ouais, je mets ça entre guillemets, évidemment, sur terre. On doit refléter Jésus. On doit projeter les mêmes sentiments. Comment agissait Jésus et comment il agit vis-à-vis de nous, par exemple? Et là, on voit une grande, une énorme dimension d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jésus va dire, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va lui faire des reproches en conséquence? C'est pas, Jésus n'est pas ici en train de dire, va lui faire des reproches pour le casser, pour le tuer, pour le détruire, pour l'accabler, pour, je sais pas, non. Jésus dit ici, va lui dire, afin qu'il puisse comprendre, afin qu'il puisse saisir. Alors, peut-être qu'il t'a fait du mal parce qu'il ne l'a même pas réalisé, il ne le sait peut-être même pas. Alors, peut-être qu'il t'a fait du mal parce que il y avait quelque chose de méchant qui est ressorti en lui. C'est juste qui arrive aussi. Mais toi, agis comme Jésus agirait vis-à-vis de toi. C'est ce que ce texte nous dit. Va lui dire. Ne reste pas sans lui dire qu'il t'a fait du mal. Va lui dire. Mais va lui dire avec tout ton amour. Et ça fait toute la différence. Vous savez, quand Dieu nous dit quelque chose, quand Jésus nous montre quelque chose, et même, je vais dire, quand Jésus, entre guillemets, vient nous permettre une situation compliquée dans notre vie pour qu'on puisse comprendre des choses, c'est jamais pour nous casser, c'est jamais pour nous faire du mal, c'est toujours pour nous bénir. Eh bien, nous, on doit avoir cette même attitude. C'est-à-dire, si mon frère me fait du mal, eh bien, par amour, avec cette dimension d'amour dans mon cœur, je dois aller le voir, ou je dois aller lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire, quoi. Ça me fait mal ce que tu fais. Encore une fois, ce n'est pas pour le casser, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est vraiment pour lui faire du bien. C'est vraiment pour qu'il puisse réaliser là où il est en train de se tromper, là où il est en train de faire mal. Et pour quelle raison ? Ben pour qu'il ne recommence plus, bien sûr. Pour qu'il comprenne et qu'il ne le fasse plus. Mais encore une fois, Jésus veut dire, mais même s'il le faisait 7 fois dans la même journée, eh bien, pardonne-lui quand même. Toujours dans cette dimension d'amour. Et je vois qu'il est déjà 11h. Je vais juste reprendre un autre verset. Si tu peux passer à la page suivante, mais on continuera dimanche prochain. Mais dans ce texte de Matthieu, parce qu'il y a une note, on va prendre juste cette première partie, hein, parce que la même situation, hein, mais c'est dans le livre de Matthieu. Il dit, voilà, si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. On retrouve encore cette dimension d'amour. Dans notre nature adamique, c'est-à-dire dans la mienne, comme dans la tienne, comme qu'est-ce qui se passe dans notre société en général, avant d'aller voir la personne qui nous a fait du mal, ça c'est dans notre nature à tous. Je ne suis pas en train de dire ça pour juger qui que ce soit. Ma nature, elle est comme la vôtre. Qu'est-ce qu'on a comme réaction en règle générale ? Eh bien, on va le dire à l'un, on va le dire à l'autre, et puis on ne va même pas le dire à la personne qui est la plus intéressée parce que c'est elle qui nous a fait du mal. Enfin, c'est ça. Là, Jésus nous dit quelque chose d'important. C'est ce que Jésus nous dit, c'est une dimension d'amour, encore une fois. Et c'est ce qu'on doit s'efforcer de faire. C'est ce qu'on doit appliquer dans notre vie. Je répète ce que je disais tout à l'heure. C'est que Jésus ne dit pas que ton frère ne t'a pas fait mal. Il dit bien, si ton frère te fait du mal, c'est-à-dire qu'il y a bien une action négative, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Les reproches que Dieu nous demande de faire, encore une fois, ce ne sont pas des reproches pour briser, casser la personne, c'est les reproches qui sont faits dans cette dimension d'amour pour dire au frère ou à la sœur qui est en train de faire une action qui n'est pas juste, ben voilà ce que tu es en train de faire, voilà ce que moi, enfin voilà les blessures qui m'atteignent parce que tu agis comme ça, puisque tu fais, eh bien mon frère, c'est pas quelque chose que tu devrais faire. Mais ce n'est pas en disant cela pour casser la personne, vous comprenez ce que c'est cette notion, c'est toujours pareil, c'est cette notion d'amour. Et par contre, effectivement, Jésus va continuer, mais ça, on ira peut-être un peu plus loin dimanche prochain. Alors s'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une ou deux personnes. Donc là, on élargit, mais et puis après, dis-le à l'Église, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin. Frères et sœurs, je répète ce que je disais. Ce texte, donc pour revenir au texte, si tu peux remettre la page 2, Sébastien, merci. Ce verset 13, ce que Paul dit à l'église de Colosse, cette chose très pratique. Il le dit parce que ce sont des choses qui arrivent dans l'église. Il ne faut pas qu'on soit étonnés les uns les autres quand ça arrive. C'est la vie. Mais par contre, comment je réagis quand ça arrive? S'il vous plaît, frères et sœurs, j'aimerais vous dire à quel point, moi, personnellement, je suis concerné par ce texte. Comme vous, on est tous concernés par ce texte. Tous. Parce qu'on a tous en nous cette nature adamique, mais on a aussi en nous, frères et sœurs, cette nouvelle nature. Alors faisons vivre en nous cette nouvelle nature qui va nous permettre de vivre cela. Imaginez, frères et sœurs, si nous vivons ce verset-là. Une fois, deux fois, trois fois, frères et sœurs, mais ensemble, on va grandir en tant que corps de Christ. quand j'aurai... Parce que si je vous ai fait du mal, vous venez me le dire avec beaucoup d'amour, le mal que je vous ai fait, je vais réaliser le mal que je suis en train de faire, mais je ne vais plus avoir envie de le faire déjà, eh bien, je vais être celui qui sera en train de grandir en Christ. Je vais être celui qui va devenir un peu plus ressemblant à Jésus-Christ alors que je suis en train de vivre sur cette terre. Et puis, si tous, on est dans cette dimension-là, c'est le corps de Christ qui est en train de grandir. Vous comprenez? C'est plus notre nature adamique qui prend le dessus en tant que famille d'Église. Ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'Église et c'est pour manifester sa gloire. Alors moi, j'ai envie de manifester sa gloire et je pense que vous aussi. Alors je vais clôturer là-dessus. On va prier ensemble, frères et sœurs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de qu'on aille un peu plus loin sur ces dimensions-là parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On continuera la prochaine fois. Mais je vais travailler sur un espèce de lectio divina, mais sous forme de questionnaire qu'on pourra faire chacun. Ce sera anonyme. Vous inquiétez pas, on ne verra pas votre nom. Hein, mais j'aimerais que vraiment vous puissiez répondre, mais avec une grande sincérité, afin qu'ensemble on puisse grandir en Christ. D'accord ? On va prier. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que ta parole soit vraiment vérité en moi, comme en chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous. Seigneur, tu sais exactement toutes les situations que nous vivons les uns et les autres. Et Seigneur, nous savons qu'avec cette nature adamique attachée à nous, Seigneur, eh bien, comment je vais dire, Seigneur, c'est pas toujours rose entre nous. C'est pas toujours tout beau. Mais Seigneur, tu le sais d'avance. Et malgré tout, tu nous as rejetés ni les uns ni les autres. Seigneur, je te fais cette prière ce matin. Seigneur, permets que je puisse vivre ce texte. Permets que mes frères et sœurs, nous puissions ensemble vivre ce texte. Seigneur, viens déverser en chacun de nous, Seigneur, cet amour qui t'anime, Seigneur, que cette nouvelle nature qui est recréée, qui est créée en nous, Seigneur, qui est en train de grandir, parce que c'est dans la croissance, dans ta ressemblance, Jésus, soit une vraie réalité. Seigneur, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, Seigneur, j'en suis tellement conscient, c'est que on te ressemble et qu'on vive cette nouvelle nature. C'est ta volonté, Seigneur. Et je sais, Père, que tout ce qu'on te demande selon ta volonté, eh bien, tu y réponds. Et moi, je te prie, Seigneur, que dans notre communauté, dans notre famille locale ici à Brué, Seigneur, tu permettes qu'on puisse vivre cette dimension-là ensemble, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Seigneur, comme toi, tu nous as aimés. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs et conduis-nous, Seigneur. Que chacun d'entre nous, on soit concerné. Que chacun d'entre nous, on se sente concerné. Seigneur, à grandir en toi. Bénis-nous, Seigneur. Et merci. Au nom de Jésus. Amen.